Aujourd'hui, la paix mondiale repose sur un équilibre plus fragile que jamais.
La bombe est entre les mains.
Et puis, il y a les bombardements qui détruisent partiellement ou complètement des villes et des villages.
Si cela se produisait, les Américains pourraient le faire dans tous les pays du monde.
The game is over.
Radio Campus, nique la guerre.
Alors ça, c'est fait un slogan de recrutement pour l'armée.
Nous sommes en état d'alerte. S'il vous plaît, évacuez les lieux. Exécution.
Parte à nouveau, buona volontà. Pace agli uomini di buona volontà.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Et bonjour à toutes et à tous, et oui, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans pour votre émission méridionale Écoute ta fac. Et aujourd'hui, on a une belle équipe avec nous. Et aujourd'hui, je vais parler de la première personne de cette équipe. C'est que France Inter nous envie, Luna, qui est là aujourd'hui, qui va nous parler de son crop theban préféré.
Exactement.
Seyssas Guiridi, salut Luna.
Bonjour à toi Nico.
Par la suite, on a la reine de Bretagne, que dis-je, la reine de la galette saucisse, Louane, qui est là.
Oh là.
Qui va nous parler des JO, c'est ça, des Jeux Olympiques.
Exactement, de Paris 2024.
Qui est avec.
Fais très attention à ma présentation.
Et avec eux, les trois mousquetaires de l'humour, ce que Rire et Chanson nous envie. Je dénomme d'abord le mousquetaire de l'équipe Ludo, qui nous parlera de comment pas trop réfléchir, ça va être pas compliqué, ça va.
Bonjour à tous.
Merci Ludo. Avec, on retrouvera le Antoine-nus de Châteauroux.
Voilà. Bonjour.
Qui nous parlera de Cyril Luna et de DPMP, de la commission d'enquête en général sur...
La commission d'enquête, pas Cyril Luna, mais la commission
d'enquête. Ouais, la commission d'enquête, t'as capté. Non. Et on aura Chris qui va nous faire une interview de Raphaël de L214 sur Radio Campus Orléans. Et on va y aller maintenant sur Radio Campus Orléans. Et on va commencer cette émission avec toi, Luna.
Et oui, Nico, ce mardi aujourd'hui. 9 avril, le ministre de la Transition et de la Fonction publique, Stanislas Guérini, a affirmé dans le journal Le Parisien qu'il comptait, je cite, « lever le tabou du licenciement ». Mais de quoi parle-t-il ? De quel licenciement fait-il référence ? C'est dans le cadre de son projet de loi pour l'efficacité de la fonction publique, attendu pour la rentrée, que le ministre annonce au compte-gouttes des directives, notamment sur le problème des licenciements. En effet, Stanislas Guérini pointe du doigt les licenciements pour insuffisance professionnelle. Cela concerne donc ceux pour inaptitude à la suite d'une maladie ou bien d'un accident. Ce type de licenciement serait donc, je cite, « mal défini et extrêmement peu appliqué » selon le ministre qui s'est exprimé sur France Inter. Des licenciements à la suite d'une maladie et accident ont représenté seulement 13 cas en 2023 pour plus de 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État. Les syndicats dénoncent l'idée de Stanislas Guérini de ne vouloir que réduire le nombre d'agents pour atteindre les 20 milliards d'euros d'économies budgétaires annoncées par le projet de loi de finances. Pour Yvan Ricordo de la CGT, il manquerait plus de 70 000 postes dans la fonction publique. Voilà, entre autres, pourquoi le discours du ministre mardi a provoqué de nombreuses critiques cette semaine. Concernant le salaire, Stanislas Guérini a aussi assuré l'idée d'une rémunération au mérite pour les fonctionnaires afin de favoriser le travail. Le ministre pointe du doigt un absentéisme trop important qui dépasserait 14 jours par semaine et une certaine paresse des fonctionnaires qui correspondrait à 35 heures par semaine. Pour lui, je cite... La justice, c'est de récompenser les agents qui sont engagés et de sanctionner ceux qui ne sont pas suffisamment leur travail, qui ne font suffisamment pas leur travail. Mais cette rémunération au mérite et ce tabou du licenciement seraient pour le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, Luc Faré, la volonté du gouvernement, je cite, de détourner l'attention sur les réels problèmes que rencontre la fonction publique. Pour les syndicats, il faut impérativement augmenter les salaires des fonctionnaires, mais aussi d'instaurer une négociation annuelle obligatoire, ce que le ministre refuse. La crainte de ces mesures serait de voir dans les années qui suivent, par les réductions des avantages des agents publics, la destruction de la fonction publique au profit du secteur privé. 5 ans après la loi de transformation de la fonction publique, les syndicats arrivent difficilement à des négociations avec Stanislas Guérini, une crainte de leur part qui est particulièrement visible, notamment par cette annonce mardi du ministre qui n'avait pas concerté les syndicats en amont. On peut donc dire aujourd'hui, le gouvernement privilégie les déclarations de nouvelles mesures dans la presse plutôt qu'à une réunion avec des acteurs intermédiaires, une action donc symbolique pour Stanislas Guérini qui montre la volonté d'écarter les syndicats dans les prises de position.
Et merci à toi Luna, j'espère que vous aurez appris un peu plus sur le sujet et qui est Stanislas Guérini pour ceux qui ne connaissaient pas. Et on va se retrouver dans quelques instants après le morceau de Camilla Sparks qui s'appelle Forget. Mad Remix. Yep.
Bon appétit sur Radio Campus.
Et oui, bon appétit si vous mangez en nous écoutant. Et là, on va parler de Chris, qui est un invité aujourd'hui, qui est Raphaël pour l'association L214.
Et oui.
Et jouer sa parole.
Et oui, merci Nico. Donc bonjour Raphaël.
Bonjour.
Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur Radio Campus Orléans. Alors je vous présente rapidement à nos auditeurs. Vous êtes l'un des trois référents de l'association L214 sur les environs d'Orléans. L'antenne existe depuis 2019 et vous faites partie d'une dizaine d'antennes sur toute la France. C'est bien ça.
C'est bien ça et merci de nous accueillir.
Avec plaisir. Alors pour commencer, un petit point culture, pouvez-vous nous expliquer l'origine du nom de l'association L214 ?
L214, ça fait référence à un article du Code rural qui date de 1976 et qui dit en gros les animaux doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Donc cet article n'est pas respecté, puisque la majorité des animaux vivent dans des élevages intensifs qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins physiologiques. Par exemple, des cochons qui vivent sur des sols ajourés en béton.
D'accord. Donc c'est vraiment ce nom d'article que vous avez pris pour faire le nom de l'association.
La référence du nom de l'asso vient de cet article.
Ok. Bon, bah maintenant, nous en savons un peu plus sur l'association L214. Alors, pour le grand public, l'association L214 est très connue, notamment pour les vidéos choc que l'association diffuse sur Internet, sur les violences faites aux animaux. Mais est-ce que vous pouvez pouvez-vous nous rappeler l'objectif, ou plutôt les objectifs premiers de l'association L214?
Notre objectif premier, ça va être d'informer, donc à travers les images d'enquête. Là, c'est à travers ça que l'asso est notamment connue, comme vous l'avez souligné. C'est de montrer ce qui se passe dans les élevages, dans les abattoirs et dans le transport des animaux. Donc on parle ici des animaux qui sont dédiés à l'alimentation, qui sont tués pour leur chair et leurs produits. L'objectif premier, c'est ça, c'est d'informer, donc de dénoncer. C'est un travail de lanceur d'alerte. Et partant de ce constat, après, c'est de mettre en œuvre des campagnes pour réduire ce qui se fait de pire. Par exemple, on peut penser à l'élevage intensif qui représente, comme je le disais, 80% des animaux en France. Et c'est aussi d'accompagner les entreprises, les particuliers, vers une végétalisation de leurs assiettes, c'est-à-dire intégrer plus d'aliments d'origine végétale, puisqu'on peut faire autrement. On n'est pas obligé de faire souffrir des animaux inutilement pour notre alimentation.
Est-ce que vous avez un exemple d'entreprise que vous avez réussi à faire, totalement faire passer du côté végétarien, mais en tout cas végétaliser un petit peu sa production ?
Des exemples, nous avons beaucoup, ça fait partie de nos victoires. Comme principale campagne, on peut citer les œufs de poule en cage. Mmh. Il y a encore 10 à 15 ans, ça représentait 80% des volumes des œufs. Donc on parle de poules qui sont élevées en cage, sans accès à la lumière du jour, avec l'espace d'une feuille A4 pour chacune d'entre elles. Ça, aujourd'hui, on est passé de 80% en 2008 à moins de 25% aujourd'hui. C'est notamment grâce au travail de L214, puisqu'on a été voir les entreprises une par une, les grands acteurs du secteur, pour leur faire signer une charte d'engagement pour arrêter ça. Et il y a plus de 200 entreprises qui sont engagées. On retrouve par exemple les chaînes de distribution, Lidl, Carrefour, Intermarché, mais aussi des grands acteurs du secteur comme le groupe Avril à l'époque qui s'était engagé. Et nous avons encore des campagnes en cours aujourd'hui. Celle-ci est toujours en cours sur certaines entreprises. Et la dernière campagne victorieuse, c'est sur les poulets de chair. Où là, nous avons plus de 100 entreprises engagées, pareil, à bannir le pire, c'est-à-dire réduire les densités, arrêter d'utiliser des souches de poulets à croissance ultra rapide. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un poulet d'élevage industriel grossit 4 fois plus vite qu'en 1950, puisqu'il a été sélectionné pour grossir aussi vite dans un objectif de rentabilité, de productivité au détriment des animaux.
Alors, vous me rattrapez un petit peu parce qu'en fait, j'allais vous parler directement de la campagne que vous menez actuellement avec vos bénévoles. Une campagne de dénonciation contre la marque Le Gaulois, on l'a vu dans les médias, qui ne respecte pas les conditions d'élevage des poulets et qui, en plus de ça, sélectionne génétiquement les poulets pour les faire grandir beaucoup plus vite que la normale. Et notamment, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les pratiques justement que Le Gaulois fait au quotidien ?
Oui. Alors d'abord, faut savoir que chez L214, on privilégie tout d'abord le dialogue avec les entreprises. C'est-à-dire qu'on les contacte pour leur montrer ce qu'il est possible de faire autrement pour réduire le pire pour un grand nombre d'animaux. Le Gaulois fait partie de ces entreprises qui ne sont pas encore engagées aujourd'hui, malgré plusieurs années de campagne. Pour préciser, Le Gaulois, c'est le leader du poulet en France, c'est 30% des volumes, à travers sa maison mère qui est LDC. On connaît les marques Le Gaulois, Maître Coq, par exemple, qui font partie du groupe LDC. Et effectivement, nous avons une campagne en cours pour que Le Gaulois puisse s'engager. On les encourage à s'engager sur notre charte, comme l'ont déjà fait tous les supermarchés, par exemple la chaîne KFC. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'à terme, un poulet élevé par Le Gaulois est moins 10 ans qu'un poulet KFC. C'est la réalité aujourd'hui en France. Malgré l'image de marque que donne Le Gaulois, la réalité est tout autre. Et c'est notamment ce qu'on veut visibiliser. Dernièrement, il y a quelques semaines, nous avons mené une action dans les supermarchés de l'agglo d'Orléans, où nous avons recouvert des barquettes de poulet Le Gaulois pour informer le consommateur, pour montrer la réalité qu'il y a derrière ces barquettes sous un marketing un peu flamboyant, tape à l'œil, alors qu'en fait la réalité elle est bien pire. Les conditions d'élevage sont assez horribles et Le Gaulois a les moyens de faire autrement. On parle d'une entreprise qui a réalisé des bénéfices conséquents l'an passé. Ils ont les moyens de s'engager.
D'accord. Financièrement, ils peuvent le faire.
Oui.
Ça, ok. Mais quels sont les retours que vous avez des gens auxquels vous parlez au quotidien, par exemple, notamment sur votre campagne contre Le Gaulois? Est-ce que les gens sont sensibles à cette thématique?
Les personnes dans la rue, vous voulez dire? Oui, la majorité des personnes qu'on croise, qui ont fait des actions de rue, sont sensibilisées. Une majorité connaissent l'association, les images. Donc il y a une sensibilisation des personnes, effectivement. Et nous, c'est de montrer ça et de les accompagner, d'accompagner les personnes qui veulent végétaliser, faire autrement de ce que l'on voit sur ces images. Malheureusement, les chiffres sont contre nous. La consommation de viande ne baisse pas depuis 10 ans. Elle stagne. Elle a même tendance à légèrement augmenter. Et notre objectif, du coup, c'est de continuer à informer et de voir ce qu'on peut faire pour accompagner les gens qui le souhaitent. Et il y a une forte proportion des gens qui veulent changer, notamment la jeune génération, qui est plus sensible à ces problématiques. Et pour, par exemple, intégrer plus de végétal dans son alimentation. Et ça concerne de nombreuses personnes aujourd'hui en France, quel que soit leur âge, mais particulièrement la jeune génération.
Donc vous constatez une évolution des mentalités sur le bien-être animal, une alimentation plus végétale, etc.
Il y a une prise en compte, à travers notamment nos images d'enquête et d'abattoir de ces dernières années, mais disons que le passage à l'acte est encore fébrile. Par exemple, les Français mangent moins de viande rouge, ça c'est un fait depuis ces dernières années, mais ça se reporte sur la chair de poulet. Il faut savoir que pour produire la même quantité de viande de poulet, il faut tuer bien plus d'animaux, puisqu'un poulet pèse au maximum quelques kilos. Mmh. Et donc, c'est, d'un point de vue des animaux, c'est même encore plus dramatique qu'avant. Mais les choses peuvent changer. Et chez L214, nous voulons tendre vers une végétalisation des assiettes, mais ça vient aussi en parallèle d'une campagne que nous menons sur les entreprises pour les encourager à bannir le pire. On ne dit pas aux entreprises, il faut arrêter ce que vous faites, mais vous pouvez mettre en place des choses pour diminuer le pire. Notre prisme de lecture, c'est de réduire la souffrance des animaux, cette souffrance qui est inutile.
D'accord. Donc, est-ce que vous avez prévu des actions futures pour continuer à sensibiliser, bien sûr, la population, mais aussi les politiques qui, eux, peuvent changer les choses dans les assemblées, sur notamment la question du bien-être animal?
Eh bien, nous menons sur l'antenne d'Orléans environ une action par mois, grâce à une vingtaine de bénévoles. Vous parlez du champ politique. Nous sommes sur ce sujet. Nous avons des mesures politiques que nous portons. Nous avons un plaidoyer auprès des élus, notamment lors des dernières élections municipales. Il y a un grand nombre d'élus qui ont été élus à la condition animale dans plusieurs villes de France. Et certains ont signé une charte à l'époque, L114, qui les a engagés sur certains points. Et ça, c'est une campagne qui est suivie de notre côté pour voir si ces villes mettent en place des mesures en faveur des animaux. On parle politique, il y a aussi la question des européennes.
C'est ma question d'après. Enfin, ça va suivre l'actualité, mais je vous laisse continuer.
Donc, les élections européennes arrivent dans 2 mois. Il y a un vrai enjeu. Il faut savoir que la Commission européenne s'était engagée en 2023 à réviser la législation en faveur du bien-être animal. Donc, bien-être animal entre guillemets, puisque les animaux vivent dans des conditions tout de même assez horrible. Donc l'objectif, ce serait de réduire le pire. Donc la Commission européenne s'est engagée à mettre cette législation en œuvre. Ça a été tout simplement annulé. Ça a été enterré à cause des lobbies de l'élevage qui ne voulaient aucun changement. Là-dessus, on n'avance pas. Mais il y a donc dans 2 mois, les citoyens pourront voter, faire un choix. Et pour éclairer ce choix, nous proposeront un classement des partis suivant les mesures en faveur des animaux qu'ils intègrent dans leur programme. Il faut savoir aussi qu'il y a des députés, des eurodéputés sortants. Eh bien, nous avons un classement de ces eurodéputés pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur mandat. Vous pouvez le retrouver sur le site politique animaux, où nous classons les députés selon leur vote, leurs mesures, leur prise de position en faveur ou en défaveur des animaux.
Ok, très bien, je vous incite à y aller. Nous allons continuer sur une autre grande thématique, moins connue de la population, notamment la question du véganisme et du végétarisme. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire qu'est-ce qui distingue les deux termes et peut-être s'il faut absolument être végane ou végétarien pour défendre la cause animale au quotidien ?
La cause animale appartient à chacun. Beaucoup de personnes sont révoltées face aux images. Face à ça, on peut bien sûr réduire sa consommation de produits d'origine animale. On parlait par exemple de la viande, du lait, du beurre. Pour définir les termes, une personne végétarienne, en fait, elle va manger des fruits et légumes. Elle va manger des légumineuses. Tout ce que permet le régime végétal, elle va aussi inclure, cette personne végétarienne, du lait, des œufs, du fromage. Là où une personne qui va être végétalienne ou végane dans son alimentation va intégrer des légumineuses, des fruits et légumes, des céréales, mais pas cette part de sous-produits animaux. L'idée étant d'éviter les souffrances inutiles à travers l'alimentation, puisqu'aujourd'hui en France, chacun a la possibilité, à travers ses achats dans le supermarché, de diminuer sa consommation de viande et, si les personnes le souhaitent, d'aller vers un régime végétarien ou végétalien. C'est possible, c'est tout à fait possible aujourd'hui en France.
Oui, on va casser un tabou. On vit très bien en étant vegan et végétarien.
On vit très bien et la preuve des personnes qui le sont autour de nous.
Est-ce que vous l'êtes ?
Oui, à titre personnel, j'essaie autant que possible de réduire ma consommation de produits d'origine animale. Et après, c'est des étapes, en fait. Chacun va avoir son rythme de progression. Et notre objectif avec L114, c'est aussi d'accompagner les gens vers ça.
Il n'y a pas d'obligation, mais vous accompagnez bien évidemment ceux qui le souhaitent.
Ah oui, toutes les personnes peuvent venir militer avec nous au sein de L114. On ne va pas regarder ce qui se passe dans votre frigo, ce n'est pas notre affaire.
Très bien. Je vous remercie, Raphaël, d'être venu. Mais avant de terminer, je vous laisse peut-être le mot de la fin sur la question européenne. On en a déjà parlé un petit peu avant. Donc, aux approches des élections européennes qui auront lieu le 9 juin, pouvez-vous nous dire pas votre couleur politique, mais plutôt les thèmes que vous souhaiteriez faire entrer dans le débat des européennes ?
Oui. Nous, ce qui nous importe, on en a parlé au cours de l'émission, c'est par exemple la réduction de la part des protéines animales. Nous avons des objectifs qui nous semblent clairs et un minimum, comme par exemple réduire de 50% la part de protéines animales d'ici à 2030.
Des objectifs
atteignables. Ils seront bien sûr détaillés dans les prochaines semaines sur notre site politique animaux. Et après, on peut parler de manière plus large, la réduction des densités dans les élevages. En fait, que la Commission européenne puisse remettre sur la table ce sujet de, donc, du bien-être animal, comme la Commission l'appelle, pour réduire les souffrances d'un grand nombre d'animaux. Donc les sujets sont larges et l'échelon européen permet d'agir à large échelle sur beaucoup, beaucoup d'animaux.
Donc L214 reste actif sur aux approches des européennes, encore plus même que d'habitude.
Ah bah bien sûr, c'est nous sommes une asso avec des mesures politiques. Donc quand une élection arrive, on fournit de la donnée aux citoyens pour qu'ils puissent faire son choix, et nous détaillerons du coup les mesures que nous souhaitons, sur lesquelles les partis s'engagent dans le cadre de ces élections.
Pour terminer, pouvez-vous nous indiquer à nos auditeurs quels sont les moyens de vous suivre sur les alentours d'Orléans, et même peut-être pour quels sont les moyens pour rejoindre votre association?
Donc vous pouvez nous retrouver, nous avons une page Instagram qui s'appelle J'agis pour les animaux Orléans. Si vous souhaitez militer avec nous, il est possible d'aller sur le site l214.com, d'aller dans l'onglet Agir localement. Et là, vous pouvez postuler pour devenir militant avec nous, et vous serez le ou la bienvenue au sein de notre équipe de bénévoles.
Super. Écoutez, merci Raphaël. J'espère qu'on pourra retrouver votre association et vous retrouver vous-même dans les rues d'Orléans aux approches des élections européennes. Merci à vous, Raphaël.
Merci pour l'invitation.
Merci. Et je repasse le micro à Nico.
Merci à vous, Raphaël, d'être venu, et merci à toi, Chris, pour l'interview. J'espère que ça vous fera changer un peu d'avis sur l'alimentation chez vous qui nous écoutez. Et on se retrouve dans quelques instants avec Antoine et Luan après le morceau de Lysistrata avec son titre Filthy Sign.
midi 13h.
Écoute ta fac.
Et on est de retour dans Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Et là, on va parler d'un petit événement. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez qu'il va arriver, qui va se passer à Paris en mois de juillet. Je crois que c'est les Jeux Olympiques, je crois, je n'ai pas entendu trop parler. Louane, est-ce que tu as plus d'informations sur le sujet, s'il te plaît ?
Eh oui, les JO de Paris 2024 sont désormais associés à leur lot de scandales hebdomadaires. Laissez-moi vous faire un rapide tour d'horizon de la fabuleuse histoire des JO aux mille polémiques. Alors, pour Anne Hidalgo, l'ambition est claire. La tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024 renforce la construction de la métropole du Grand Paris. Nouvelle ligne de métro, nouveaux quartiers, disparition des départements de la Petite Couronne, compétition avec les autres grandes capitales mondialisées. Néanmoins, les faits s'éloignent un petit peu plus des grands discours. Alors, dès la première étape de l'aventure Paris 2024, un nuage de scandales se profile déjà à l'horizon. En 2017, la candidature de Paris est ébranlée par des accusations de conflit d'intérêts. L'agence d'événementiel Kenéo se retrouve au cœur de la tourmente. Ayant déjà obtenu plus de 2 millions d'euros de contrats de la part de la candidature française au JO, une agence fondée par le directeur général actuel de Paris 2024 et bénéficiant de soutien d'actions responsables de grands événements sportifs à Matignon. Bizarre. Alors que la désignation de Paris pour accueillir les JO en 2024 s'apparente à une victoire par défaut, avec tous les concurrents ayant abandonné pour des raisons budgétaires, l'équipe française, elle, assure qu'elle respectera son budget colossal de 6,6 milliards d'euros. Cependant, les allégations de conflit d'intérêts persistent, culminant en juin 2023 avec une perquisition de la police au siège du comité d'organisation dans le cadre d'une enquête du parquet national financier sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution de marchés liés au JO. Dans un autre registre de contestation, on voit également le développement d'un sentiment de mépris envers la population française qui s'installe. En effet, en dépit de la promesse initiale de rendre les JO de Paris 2024 accessibles et abordables pour tous, la réalité s'avère bien différente. Les coûts élevés des transports et des logements, ainsi que les prix exorbitants des billets pour assister aux compétitions, en sont la preuve flagrante. De plus, près de 45 000 bénévoles, essentiels au bon déroulement des Jeux, se retrouvent sans rémunération ni logement. On peut également associer ce sentiment aux revendications de la CGT. En effet, le syndicat a déposé des préavis de grève dans la fonction publique pour les JO. Sophie Binet, la secrétaire générale du syndicat, avait appelé début mars à ce que les Jeux de Paris soient préparés d'un point de vue social. Parallèlement, Paris cherche à éloigner les populations jugées indésirables du cœur de la compétition. Plus de 80 ONG et associations dénoncent un véritable nettoyage social de la ville. Elles alertent sur l'exclusion des populations les plus précaires, sans-abri, travailleuses du sexe ou encore migrants. Les maires de plusieurs villes de province, à l'instar du maire d'Orléans, que l'on connaît bien ici, Serge Grouard, expriment leur frustration, dénonçant une opacité totale dans cette démarche. Grouard révèle même le transfert en catimini de près de 500 migrants vers sa ville depuis un an, sans aucune information préalable des autorités. Aussi, la préfecture du Loiret confirme les faits, mais nie tout lien avec les Jeux Olympiques, suscitant ainsi de vives réactions et des interrogations quant à la transparence de ces actions. Autre sujet important évoqué, dans le cadre des Jeux Olympiques, des étudiants se verront contraints de quitter leur logement réquisitionné. Imaginez-vous, vous êtes étudiant à Paris, vous avez trouvé un logement abordable grâce au Crous, et soudain, vous recevez un avis vous informant que vous devez quitter votre domicile pendant les Jeux Olympiques. Une situation inconfortable, n'est-ce pas ? Mais attendez, c'est pas tout. En échange, le gouvernement vous propose une indemnité de 100 euros et 2 places pour assister à des épreuves olympiques. La chance, vous me direz. Aussi, plus de 2000 étudiants bénéficiaires du Crous doit faire l'objet de relogements pendant les Jeux Olympiques de Paris qui débutent le 26 juillet. Mission quasi impossible. Au vu de ces événements, on peut se poser aussi une question épineuse. Les Jeux qui devaient faire rayonner la France auront-ils finalement l'effet inverse ?
Et merci à toi Louane et merci à l'organisation de Paris pour les JO. Qui sait, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont faire du boulot, Pécresse, Hidalgo et Oudéa Castéra, on verra. Et on passe à un autre sujet d'actualité. Peut-être moins marquant que les JO, mais qui fait beaucoup l'actualité en ce moment en plus, avec toi Antoine qui va nous parler de la commission d'enquête parlementaire une commission qui est très spéciale en plus.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences de la TNT qui a eu lieu il y a maintenant 2 semaines. Donc, la commission parlementaire a tout d'abord reçu Maxime Saada, patron du groupe Canal+, Pascal Praud, Lance Ferrari, Thomas Bauder, Serge Nedjar, Sonia Mabrouk ou encore Cyril Hanouna qui ont plaidé leur cause devant la commission initiée par les députés de la France Insoumise. Plusieurs sujets ont été abordés, comme la polémique sur le graphisme concernant l'IVG dont tu avais parlé, Luna, il y a quelques semaines, mais aussi la place des femmes à l'antenne, le pluralisme des opinions représentées à l'antenne ou encore des pressions que Vincent Bolloré aurait potentiellement exercées sur ses employés. Si de nombreux points ont été évoqués, c'est le respect des règles en vigueur et le contenu politique de leur émission qui est au centre des questions des députés. Le récent numéro de « Enquête d'esprit » sur CNews qui a assimilé avortement et mortalité est le dernier scandale en date. Il a été réalisé en partenariat avec France Catholique, hebdomadaire conservateur et propriété lui aussi de Vincent Bolloré. CNews a déjà été sanctionné 2 fois ces dernières années, sans compter les nombreux rappels à l'ordre et les mises en garde notifiées par l'ARCOM. Et ce, notamment pour manquement à l'honnêteté de l'information ou pour ne pas avoir décompté des temps de parole du Rassemblement National lors des dernières élections législatives. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Yann Barthès de faire face aux députés. L'animateur de Quotidien était auditionné le mercredi 27 mars par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. L'audition avait été réclamée par les députés Rassemblement national après celle de Pascal Praud, Hanouna et Vincent Bolloré. Les élus d'extrême droite reprochent notamment à Yann Barthès de ne pas les inviter dans son émission diffusée chaque soir de la semaine sur TMC. Abkirian, directeur des programmes de TF1, Thomas Courcel, directeur de la conformité des programmes du groupe TF1, Laurent Bon, cofondateur de la société Benguimi, qui produit Quotidien, et Julien Belvert, chroniqueur de l'émission, étaient également présents. Après avoir exprimé son mécontentement d'être convoqué, Yann Barthès a rappelé que son émission défendait, je cite, les valeurs d'humanisme, antiracisme, de liberté et d'égalité. Et a aussi insisté sur le fait que Quotidien, c'était zéro dérapage, zéro mise en demeure de par l'ARCOM. Une façon de se distinguer de TPMP, l'émission de Cyril Hanouna, régulièrement sanctionnée par l'ARCOM, l'ex-CSA, pour ses dérapages. Quotidien choisit de ne pas inviter de politiques d'extrême droite. La chaîne respecte aussi le temps de parole grâce à des extraits d'émissions et de reportages. Yann Barthès a expliqué le choix des sujets qui étaient faits en fonction de l'actualité. Et Laurent Bon, lui, a également rappelé que le parti de Marine Le Pen interdisait très régulièrement les journalistes de Quotidien lors de ses réunions publiques ou même que les journalistes de Quotidien étaient régulièrement victimes de violences lors de ses tournages comme au Salon de l'Agriculture. Plus récemment, le président de la commission d'enquête parlementaire sur la TNT, le député Renaissance Quentin Bataillon, a suscité une vive polémique en participant à l'émission de Cyril Hanouna, TPMP. La présidente de l'Assemblée nationale a rappelé à l'ordre le député de la majorité. Yaël Braun-Pivet souligne qu'un président de commission d'enquête doit exercer ses fonctions de façon impartiale, équilibrée et collégiale. En allant sur le plateau de TPMP, le président de la commission a semblé prendre position dans cette querelle. Ce n'est pas neutre d'avoir accepté cette invitation alors que les conclusions de la commission d'enquête ne sont pas encore terminées. C'était maladroit d'aller chez Cyril Hanouna et encore plus maladroit d'y aller pour critiquer son concurrent Yann Barthès. Quentin Bataillon a estimé que l'animateur de Quotidien avait été arrogant pendant son audition, qu'il ne répondait pas aux questions et qu'il était mal habillé. Tout cela pour le plus grand bonheur de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. Donc voilà, on peut se demander si le président de cette commission, donc Quentin Bataillon, sera présent lors de la remise du rapport dans quelques jours aux côtés de son collègue La France Insoumise.
Merci à toi Antoine. Je ne sais pas si vous regardez TPMP au quotidien, mais je vous conseille de rester sur Radio Campus Orléans pour Écoute ta fac, une émission très divertissante et neutre surtout. Et on va se retrouver dans un instant avec Ludo. Après cette petite pause musicale du chanteur DJ IG Nils, désolé pour lui si j'ai écorché son prénom, qui s'appelle RG Remix. Thank you. Et vous êtes de retour sur Radio Campus Orléans. Et là, on va passer à notre Ludo, notre Sacha de Bronpalette.
Ouais, allez, ça.
Pas de reste à la radio, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Tu vas parler de. Tu vas me faire travailler les méninges, Ludo, aujourd'hui.
Bah non, justement, j'ai essayé de vous alléger les méninges en vous parlant de comment arrêter de trop réfléchir. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Mettez mise en situation. Il est 2h du matin. Vous n'arrivez pas à vous endormir, vos pensées tourbillonnent, créant des centaines de scénarios dans votre esprit. Vous vous forcez à vous endormir, mais plus vous essayez, et moins cela marche. Résultat, l'aube arrivée, vous voilà épuisé. Votre journée sera probablement naze, et l'enfer recommencera le soir même et des jours durant, jusqu'à ce que votre problème passe. Ce problème dure depuis des milliers d'années et est vécu absolument par tout le monde, et semble impossible à résoudre. Dans ce contexte où la santé mentale globale chute, où la période des examens arrive, quels que soient vos problèmes et vos stress, j'aimerais ainsi vous aider, tant soit peu, en vous disant que oui, il est possible d'arrêter de trop réfléchir et en vous donnant quelques solutions. Tout d'abord, pourquoi réfléchit-on trop ? Alors comme vous en doutez, on réfléchit trop à cause du stress. Le stress est un mécanisme de défense naturelle du corps permettant de faire face à des situations considérées comme nous menaçant. Le corps se prépare à affronter une situation de combat ou de fuite. Et cette réponse physiologique peut engendrer des pensées constantes et une anticipation excessive des problèmes actuels et hypothétiques à venir. Le cerveau devient comme pris dans un cercle vicieux où chaque pensée génère de nouvelles inquiétudes et réflexions, renforçant ainsi le niveau de stress. C'est la surréflexion, l'hyperréflexion ou encore une autre variante, la rumination. Évidemment, alors les solutions que je vais proposer sont toujours plus faciles à dire qu'à faire, mais elles sont prouvées et étudiées par la recherche scientifique. Alors le premier concept que j'aimerais aborder, c'est celui de la diffusion cognitive. Il vise à réduire l'impact de vos émotions négatives en les observant, sans s'y attacher. Ce ne sont pas des vérités qui doivent prévaloir sur les autres choses qui vous entourent. Remettez en question vos pensées négatives, car bien souvent, elles ne sont pas fondées. Tous les scénarios créés par votre esprit ne vont pour la plupart du temps jamais arriver. C'est une chose naturelle de se focaliser sur le négatif, mais voyez le grand tableau plutôt qu'uniquement le point noir sur la feuille blanche. Regardez aussi tout le blanc qui existe autour. Entraînez-vous aussi à avoir des pensées positives et tirez-en de la force. Par exemple, si vous voulez quitter votre emploi mais que vous pensez à toutes les conséquences, pensez aussi à toutes les bonnes raisons de le faire. Certains événements sont également incontrôlables de votre part. Au lieu de rajouter de la souffrance et de la rumination sur celle-ci, pensez que vous ne pouviez pas la contrôler, elle et ses conséquences. Regardez plutôt les autres disponibilités qui s'offrent à vous et comment vous pouvez réagir face à cet événement. Deuxième stratégie, s'engager dans des activités de flux. Donc le flux, c'est un état d'immersion totale dans une activité à la fois stimulante et gratifiante. Les études suggèrent que la pratique d'activités qui induit un état de fluidité, comme un instrument, la peinture, le sport, peut réduire de manière significative vos pensées excessives et donc vous profitez de l'instant présent en ne pensant à rien d'autre. Troisièmement, si l'on part du principe que nos pensées entraînent des inquiétudes fondées ou non, vous pouvez prendre des moments pour les noter et essayer de trouver un moyen de les résoudre plutôt que d'être inquiété. C'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la mise en place d'un cadre peut aider à réduire la charge cognitive et l'analyse de décisions mineures. Laissez-vous aussi le temps de penser à froid. C'est souvent dans l'émotion qu'on a tendance à s'auto-paniquer, à s'auto-intoxiquer d'angoisse et de crainte que l'on extrapole très souvent. Une fois que la tempête est passée, vous serez mieux à même de réfléchir et de prendre de meilleures décisions. Combien de fois nous avons surinterprété certains problèmes qui n'existaient pas pour la plupart et quelques jours plus tard avons relativisé sur notre situation. La méditation également avant de dormir ou quelques minutes au lever permet d'éliminer les pensées intrusives et les inquiétudes et laisser place au bon sens. Il suffit de 10 à 15 minutes pour ressentir les effets de la méditation. Enfin, accepter. Accepter que l'on est et de son passé, ce qu'il en est et de son passé, afin de se concentrer sur le présent. Les échecs passés sont passés, les erreurs passées sont des erreurs passées. Il s'agit également d'être plus tolérant envers soi-même et reconnaître que nous faisons déjà de notre mieux. L'important est de ne pas faire de notre mieux maintenant. Profitez des éléments, des sens, des sensations. Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'être dans votre situation actuelle. Bref, essayez de prendre du recul. Concentrez-vous sur votre responsabilité plutôt que sur vos anciennes fautes. La faute est passée et votre responsabilité est présente. Ces solutions ne sont pas miracles, mais au quotidien, avoir conscience de vos émotions, prendre cette prise de recul pour permettre de créer des repères émotionnels positifs, vous permettront, une fois venu le jour J, de mieux vivre l'événement difficile. Merci à tous.
Bah merci à toi, Ludo. Merci. J'espère que chez vous, ça vous a fait un peu réfléchir. Pas trop quand même. Oh. Pas trop quand même.
Ça devrait aller pour Antoine.
C'est des pistes.
Waouh, ça commence. Bon, merci. Et merci à vous tous d'avoir fait vos chroniques. Maintenant, on va passer au jeu du jeudi. Et là, après avoir fait le juste prix et qui veut gagner le million en mode radio, j'ai essayé de faire un autre jeu, un monument de la télé.
On a
version radio.
On n'a plus le choix. Ouais. On a plus le choix du coup. Maintenant, c'est imposé.
Bah
c'est,
cette semaine, oui, j'ai eu du temps à le faire. Du coup, on va le faire celui-là.
Ok. Okay. Allez.
Allez. On vous laisse deviner avec le générique.
Bah, je sais. Tu casses vraiment le.
Merci Antoine.
Bonne surprise.
Comment on
joue? On le sait.
Et oui, à tout. Oui, oui, oui. On va tous jouer au maillon faible parce que.
Julien Lepers.
MC. Non, c'est pas Julien Lepers en fait.
Je sais, mais t'as fait oui, oui, oui.
Ah, oui. En fait, je vous explique. M6 a relancé le maillon faible avec Vincent Dedienne pour un prime exceptionnel. Et le maillon faible, je sais pas si vous connaissez tous, c'est le fameux jeu avec Laurence Boccolini où chacun pose l'animatrice pose des questions individuelles à chacun et vous devez répondre au tac au tac. Genre, vous avez 3 secondes pour répondre à chaque fois. Et c'est des questions banales de la culture générale. Mais si vous n'avez pas la réponse, je vous dis vous êtes maillon faible et vous êtes éliminé. Ah. Et à la fin, il n'en restera qu'un qui sera le maillon fort.
Il n'en restera qu'un.
Il a gagné, et cette fois-ci, Chris, t'as des chances. Ah. Allez.
Oula.
Ça veut dire
c'est
quoi,
Chris
ça.
Qui commence
à
dire quoi, ça. Je vous le dis, comme c'est la radio, je suis gentil, vous avez tous un joker, vous pouvez passer une question. Genre, si vous ne trouvez pas la question, vous passez.
Une seule.
Oui, une seule ou une seule, c'est-à-dire longtemps, ok.
Et on a combien de temps pour répondre?
3 secondes, c'est tac au tac, vraiment.
Ah oui, carrément.
Ah oui, mais c'est comme l'émission. Vous êtes prêts? On va commencer par Antoine, dans l'ordre, comme ça.
Faut répondre aux questions.
Non mais chacun son tour, par contre.
D'accord. C'est pas...
Je réponds à Antoine, Luan, Chris, Ludo, Luna et on revient à chaque fois.
Non mais j'avais compris.
Oui.
Oui bah arrête de répéter Nico, on a tout de suite compris.
Alors faites gaffe, hein. Voilà. On va commencer, vous êtes prêts?
Vas-y. Allez.
Antoine t'es prêt? On va commencer par toi.
Je saute dès la première question.
Oh oui c'est sûr.
J'espère.
Quel célèbre objet appartenant à François Hollande vient d'être mis aux enchères?
Un scooter.
Bien, Luan.
Pas mal.
Qui anime dans sa Questar?
Combal, Camille Combal.
Chris. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans?
100 ans.
Non, 116 ans. 116 ans.
Non, mais sa question a été dure.
Tu es le maillon faible.
Oui,
tu
c'est...
es éliminé.
Ouais, c'est...
Déjà
ouais, c'est dur.
À part, attends, ton joker, on va prendre ton joker pour maintenant.
Allez, joker. Ouais.
Mais non, de base, faut qu'on élimine.
Oui, mais il y a le joker.
Oui, attends, quand ça va tomber dessus, tu n'auras pas le
Ludo.
Oui,
ouais. Qui fut le 4e président de la 5e République?
Oh, ça me fait stresser là.
Il faut y aller tout de suite.
Valéry Giscard d'Estaing.
François Mitterrand.
Ah, merde.
Ton joker.
Oh, mais t'es mauvais. Oh, t'es mauvais.
J'avais plus la chronologie en tête.
Luna. Oui. Quelle est la capitale du Luxembourg?
Luxembourg.
Ok, Antoine. Non, mais... Comment s'appelle le célèbre bonbon rouge en forme de fraise de la marque Haribo?
Bah, une fraise Tagada.
Ok, Luan. Oui. Comment s'appelle le héros du dessin animé Oui Oui?
Oui Oui.
Oui.
Chris. Non mais pardon, mais...
Bah oui, non mais c'est hyper simple, ça y est, faut arrêter.
Qui fut le 45e président des États-Unis? Le 45e président des
États-Unis. Oui Oui, 45e président des États-Unis.
Trump.
Oui, Trump.
Oh, putain, au hasard. Ludo.
Mario Luigi sont-ils frères ou cousins?
Frère.
Oui, Luna. Sur quelle radio sommes-nous?
88.3.
Oui, mais quel nom?
Radio Campus Orléans.
C'est bien.
Évidemment.
Antoine, que signifie le terme JO dans le monde du sport?
Jeux Olympiques.
Ok. Luan.
Oui.
C'est Pierre ou Julien qui gagne à Starac 2023?
Ah.
Même moi je sais.
T'as le joker.
Pierre.
Oui, c'est Pierre. T'as
oh wow.
Chris, qui est la mairesse de Paris?
Anne Hidalgo.
Ok, Ludo. Qui est la couleur du Père Noël?
Rouge.
Ok, Luna. comment s'appelle la ministre de l'éducation nationale actuelle?
Elle s'appelle Belloubé.
Le prénom?
Nicole.
Ok. Antoine, quel est le fruit du chêne?
Bah un gland.
Bah bien. Luan, ah non c'est pour toi. Qui est la capitale de la Bretagne?
Alors il n'y a pas de capitale de la Bretagne mais de bas c'est Rennes.
Alors tu remets en cause deux questions?
Bah oui, je suis désolé. Ouais, c'est inadmissible.
Moi je suis d'accord.
Puis Chris, qui a gagné la première saison de la Star Academy?
Ah mais toujours. toujours plus.
Si.
Toujours plus. Combien il y a de pierres sur la lune?
Ah bah t'es 3.
Le gorille marchand.
Non, c'est Jennifer, t'es éliminé, t'es maillot fait Chris.
Bah j'ai tenté.
Ludo.
Oui.
La céphalope est-elle une plante ou une antilope?
Céphalope. Non mais c'est quoi ça?
C'est manger mes tout.
Moi je pense c'est une plante.
C'est l'antilope.
Non mais ça y est.
Tu
es non alors je suis pas éliminé parce que j'avais raison, c'est bien le 4e. Parce qu'il est mort et du coup il y a eu un président par intérim.
Moi aussi je suis pas. Non,
c'est vrai hein.
Non mais moi non plus.
Oui, mais
je suis
ils sont pas comptés. Georges Pompidou il est mort, bah ça compte quand même.
Luna. Quelle forme affronte les cercles dans le Morpion?
Quoi?
Quelle forme affronte les pieds?
Ah, les cercles avec les croix.
Bien.
Antoine, je vais tout casser.
La levrette était la femme du lévrier ou du lièvre?
Du lièvre ?
Du lévrier, c'est...
Ah ouais.
T'as Joker, ça va.
Ouais,
Louane.
Oui.
Le Macron est-il le fils du Macron ? Vrai ou faux ?
Bah c'est faux.
Oui, c'est faux. Luna, combien y a-t-il de républiques en France depuis sa création ?
Il y en a 5.
Bien. Antoine, qui chante J'ai demandé la lune ?
Indochine.
Ok, Louane, oui. la députée écologiste s'appelle-t-elle Sardine Rousseau ou Sandrine Rousseau ?
Sandrine Rousseau.
Bien.
J'ai des antilopes.
Luna, quelle couleur de poivron n'existe pas ? Le orange ou le noir ?
Non, le noir, parce que le poivron orange, ça existe.
Oui. Antoine, okay. De quelle année datent les accords de Munich ?
38.
Oui. Louane, oui. 6 fois 7.
Ah.
Si j'ai répondu, je reviens dans le jeu ou pas ?
Non, tout est évident.
Joker.
T'as plus de Joker, Louda.
Ah oui, ouais. Ah oui, t'as plus de Joker.
Comment ça, ouais. J'ai plus Joker ? 6 fois 7. Attendez, je réfléchis.
C'est fini. C'était
42.
C'était
42. Donc attends,
là, c'est un final. C'est un duel, là ?
La finale, Louda.
Ah, elle a un avantage, elle a le Joker.
Luna. Comment s'appelle le chien de Tintin ?
Milou.
Ok, Antoine, combien y a-t-il d'humains sur la planète Terre à peu près ?
Ouais, on a passé les 8.
Ouais, 8 millions, c'est ça ?
Non, milliards.
Milliards, pardon. Luna, combien coûte en moyenne un paquet de cigarettes aujourd'hui en France ?
C'est pas 13 euros ?
11 euros, t'as le Joker, donc ça va. Ah, là, y a plus de Joker, donc c'est...
C'est faux parce qu'il a passé la barre des 12 euros.
Il a pas passé
non,
la barre
11 euros,
des 12, ouais.
Encore actuellement.
Ok.
Le nom de jeune fille Brigitte Macron est-il Trognon ou Trogneux, Antoine ?
Trogneux.
Oui. Luna, de quelle couleur est le marsupilami ?
Il est jaune et il est noir.
Bien. Antoine, quelles sont les deux principales couleurs de l'équipe de Koh-Lanta ?
Les rouges et jaunes ?
Oui, Luna. Qui surnommait le roi de la pop ?
C'est Michael Jackson.
Bien. Antoine, comment se nomme le parti d'où est ici le parti politique d'où est issu Emmanuel Macron ?
La République en marche. Mmh. Bah, c'est Renaissance maintenant ?
Oui, c'est... On a... La régie accepte, la régie accepte.
Il est issu du PS.
Il est issu du PS.
Non, là c'est...
Ah,
bon, alors c'est mal formulé, de quel parti a-t-il fondé ?
Oui, voilà, c'est
ah, bah, voilà, c'est scandaleux, voilà. Non.
C'est scandaleux. Les barrages, c'est
pas... En soi, il a jamais été en carte PS.
Les maillons faibles, c'était... Je vous ai coupé le micro, attends. Luna, David et Goliath, qui c'est qui remporte le duel ?
C'est David.
Oui. Antoine, Ségolène Royal, t'es en couple avec Hanouna ou Hollande ?
Bah Hollande...
Ok, Luna, le panda est-il noir ou blanc ? Noir et blanc ou rose et bleu, pardon ?
Noir et blanc.
Ok. Antoine, finissez la phrase, Haribo, c'est beau ? Luna,
c'est pour la vie ?
Ok.
Non ? Ça marche pas.
C'est beau la vie ! T'as perdu, Antoine !
J'ai dit quoi, moi ?
Pour la vie.
C'est pour la vie.
Ah, ok, bah j'ai perdu.
Et donc, Luna a gagné cette épreuve du maillon faible. Et c'est le maillon fort, et vous êtes tous des maillons faibles, les autres, bravo. J'espère que... Ouais, merci à vous.
Ah, Luna, t'es mal les questions de Goldmonde qu'elle a eu aussi.
Comment ça on a plus de micro ?
C'est bon, j'ai un numéro 8.
Ouais,
mais bon, en plus, c'est pile poil à la fin. Bravo,
c'est
Luna.
Beau, c'est beau pour la vie.
Et en plus, c'était ma dernière question, donc ça m'arrangeait bien. Mais bravo à tout le monde, bravo à tous. J'espère que vous avez aimé, même si vous avez perdu.
Est-ce que t'as aimé.
En vrai, j'étais un peu nul aussi, mais.
Après.
La deuxième question, elle était.
Les questions.
Les antilopes, bon. Aidez-moi qu'une question comme ça en plus.
Je reviens sur ta justification, tu as faux. Parce que ouais, Mitterrand, vrai, tu dis qu'il a été le quatrième parce qu'il y en a eu un autre avant. Et mais c'est faux parce que.
Ouais, en fait, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse.
Non, t'as raison, parce que De Gaulle, quand il y a Pompidou qui meurt, du coup, c'est l'autre là qui prend.
Oui, voilà, c'est l'autre. Et après, c'est.
Et c'est avant, c'est De Gaulle. Quand il y a la passation entre De Gaulle et Pompidou, il y a l'autre avant.
Ouais.
Du coup, ça rajoute encore un plus, donc t'es encore faux même.
Non, mais allez, ça y est.
Il est dans le déni.
Qui savait, ouais, de ouf.
Après, c'est vraiment les questions au hasard. C'est vraiment, j'ai écrit plein de questions,
c'était
aléatoire.
Trouvé, c'était pas non plus.
J'espère que c'est où j'ai appris un peu à jouer. J'ai peut-être aimé l'émission.
C'était le genre que j'avais regardé le slogan de Harry.
Moi, j'ai bien aimé.
Et il y a marqué bien aimé pour les enfants et les petits. Et je me suis.
Ouais. Bah, merci à tous d'avoir joué. Est-ce que tu voulais faire un petit recours culturel ?
Oui.
Oui ?
Bah, t'en as une, toi ?
Bah, vas-y, Louane.
Vas-y, c'est les gens en
ont. On t'écoute, Louane.
On t'écoute.
Moi, j'ai une recommandation culturelle qui est très sympa. C'est un documentaire que j'ai juste de voir, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Paris, nid d'espions.
Ouais.
Franchement, il est génial. Je vous conseille. Alors, il est disponible en streaming sur France TV, mais c'est vachement intéressant. Ça traite notamment... en fait, toutes les facettes un peu de l'espionnage, l'espionnage industriel, l'espionnage industriel, universitaire... Également l'espionnage un peu plus classique. Et on voit notamment, ce qui est vachement intéressant, c'est la mise en lumière avec, dans le cadre de l'actualité aujourd'hui, donc dans le cadre du conflit ukrainien. On voit notamment une grosse concentration du coup, d'oligarques russes et de soutien pro-Poutine sur la côte basque. Et voilà, pour en découvrir un peu plus, je ne vais pas trop vous spoiler, mais je vous invite fortement à aller regarder ce petit reportage qui est extrêmement bien fait et très très pertinent. Et aussi qui interpelle particulièrement et qui nous fait découvrir un monde qui est pourtant de sécurité très défense très très caché et là on voit vraiment une mise en lumière voilà.
Ah, moi je prends note en tout cas.
Il y a une recommandation à faire.
Ouais moi j'en ai une.
Vas-y, moi aussi.
Mon micro. Ouais. Ça s'appelle Le Parcours des Tyrans sur Netflix. Je l'ai regardé il y a quelques mois et c'est 6 épisodes de une demi-heure. Et la description c'est: vous rêvez de devenir un tyran, il y a des règles à respecter et la marche à suivre commence avec l'un des dictateurs les plus brutaux de l'histoire, Adolf Hitler.
Tu l'as vu la série Antoine?
Oui. Moi je l'ai vu et ça, en fait ça te donne des conseils et en fait c'est pour devenir dictateur mais c'est surtout comment les dictateurs ont fait pour garder et maintenir leur pouvoir.
Ça me fait penser à quelque chose.
Par exemple tu vois ça s'appelle s'emparer du pouvoir, écraser ses rivaux, faire régner la terreur, comparer la vérité, créer une nouvelle société et gouverner depuis la tombe.
D'accord, intéressant. C'est Ludo qui avait une, Ruko aussi.
Ouais.
T'as la deux même, je crois, non?
Deux même.
Ah bah vas-y,
ouais,
fais
non
deux.
Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Antoine, moi je suis allé voir il n'y a pas longtemps le spectacle du professeur de rhétorique Clément Viktorovitch, qu'on avait déjà recommandé sur cette même émission, et qui fait un one-man show dans lequel il incarne l'ancien fictif, hein, bien évidemment, conseiller en communication du président de la République. C'est plus ou moins sous-entendu que c'est Macron. Et dedans, il va donner des clés rhétoriques, les clés pour accéder au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir, dans une forme de communication, comment empêcher les gens de passer à l'action, etc. Il le fait tout en humour, tout en subtilité, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'interactions. C'est vraiment, vraiment subjugant. Chaque mot est millimétré, c'est chirurgical et c'est vraiment très très bien.
Bah, ce qui est intéressant avec Taroko et celle d'Antoine, on a quoi devenir un bon petit dictateur avec vous deux.
Bah,
c'est bien, hein, c'est bien.
Ça
hein, c'est,
ça non, mais ça donne des clés justement pour s'alarmer face à ça.
On souffle dans le micro, Antoine, je te vois.
Luna, une Roko, non?
J'en ai pas pour aujourd'hui.
T'as pas une deuxième, Ludo?
Si, mais après, je prends un peu trop la parole.
Bah, Chris, une reco, c'est ça
là,
une intro à faire, Chris
pas, là.
Ok, bon, bah,
vas-y,
je donne la deuxième, voilà, parce que je suis super cultivé.
C'est bon pour la vie.
Ouais, merci, Haribo.
Allez, merci, Chris.
Quelle belle phrase. Ça fait réfléchir.
C'est une plateforme, un média, un podcast qui s'appelle Les Lueurs. Et c'est ce qui m'avait donné justement l'idée de faire cette chronique. C'est un média qui propose, à partir du témoignage de personnalités, d'anonymes et d'experts, de rechercher la paix dans la folie de nos vies et des injonctions à tout réussir. Il nous propose de partir sous format d'interview en général, à la rencontre de réponses, à la rencontre de nos combats et de nos failles intérieures, mais aussi de nos désirs les plus grands. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et surtout, ça permet vraiment de nous réunifier un peu dans des moments où on peut sentir justement un peu en grande solitude dans ces moments-là. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à chercher des réponses. Voilà.
C'est une bonne question, la vie. Quelqu'un a une autre quoi à faire? Une petite dernière avant la fin?
Antoine,
Chris,
Chris, t'as pas... moi j'ai plus rien, moi.
Chris, t'as pas une intro de livre à expliquer ou à nous présenter?
Non, bah là, non, je crois que c'est...
Est-ce qu'on peut couper?
Après, en roco culturel, je vous propose d'écouter Radio Campus Orléans tous les jours. Écoute ta fac tous les jeudis, tous les midis, de lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et puis même cet après-midi, je crois qu'on a peut-être des bonnes émissions. On a plusieurs émissions sur la chaîne avec Polémix à 14h. Et Polémix et les voix off. Non, c'est pas un album d'Astérix, Antoine. On a le Mag culturel à 17h. Et surtout, restez bien sur cette antenne si vous écoutez de la bonne musique. Quant à nous, l'équipe, on se dit rendez-vous le 16 mai parce que nous, on rentre en période d'examen, on ne sera pas là. Mais l'émission aura toujours lieu avec une équipe autre. Et on vous...
Et juste, réécoutez mon interview sur L214. Okay, voilà. Okay. Bon, je pose ma pub là et puis c'est bon. Je pars en grand prince.
Allez.
C'est bon.
Merci à tous, écoutez Chris et au revoir tout le monde.
Bonne journée.